La majorité présidentielle a déposé à la SENCO hier lundi sa proposition sur l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Dans ce texte, la majorité propose notamment un gouvernement d'une soixantaine de membres du fait de sa fonction d'union nationale. Pendant ce temps, certaines personnalités de l'opposition politique signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et membres du gouvernement Badibanga rejettent l'accord de la Saint-Sylvestre. L'une des raisons évoquées, selon elle, est que ce compromis n'apporte aucune précision sur les dates des élections. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois professeur Alphonse Maïndo. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique et lui, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Israël Moutala. Il est journaliste, analyste politique et économique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne année 2017 à tous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La majorité présidentielle a remis lundi à la SENCO sa proposition sur le chronogramme d'application de l'accord du 31 décembre 2016, le profil du futur Premier ministre, la formation et la structuration du gouvernement, ainsi que les modalités de répartition des quotas au Comité national de suivi. Les détails avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Chaque composante ou chaque regroupement politique déposait auprès de la SENCO ses propositions dès qu'il était prêt. La majorité présidentielle a déposé au moment où elle a estimé que c'était convenable pour lui. La composition d'un gouvernement ne se fait pas en fonction du chiffre ou d'un chiffre cabalistique qui a le mérite de résoudre tous les problèmes de la République. La hauteur et la mission d'un gouvernement sont faites en fonction d'un certain nombre d'objectifs et d'un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, il faut préparer les élections, il faut améliorer la situation sociale de nos populations entre-temps. Mais ce gouvernement est formé à partir d'une base large dont il faudrait tenir compte. Nous avons la majorité, les forces politiques et sociales et la société civile signataires de l'accord du 18 octobre. Nous avons le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution et les forces signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut faire tout cela, il faut tenir compte de tous ces éléments pour que la sortie du gouvernement ne puisse pas occasionner des frictions ou des frustrations importante, voire handicapante.
Voilà, c'était plutôt André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, qui expliquait l'essentiel de la proposition de sa famille politique. Entre-temps, quelques personnalités politiques de l'opposition, signataires de l'accord du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine et membres du gouvernement Badibanga, rejettent l'accord de la Saint-Sylvestre. Motif, ce compromis n'apporte aucune précision sur les dates des élections, affirment ses membres. C'est en tout cas l'essentiel d'une correspondance adressée hier lundi à Monseigneur le Président de la SENCO au lendemain des entretiens du week-end avec les évêques et Sami Badibanga, Azarias Roubérois, José Makila et Jean-Lucien Boussa. Ce dernier, Jean-Lucien Boussa donc, explique les autres motifs de leur refus au téléphone de Martin Sebujangui.
Je me rends compte aujourd'hui, la bataille du rassemblement est réduite à la quête de la primature à tout prix.
Allez-vous signer l'accord de la SENCO ou pas?
L'accord devait résoudre la crise en donnant un chronogramme très précis, très clair des élections, ce qui n'est pas le cas à ces jours. Deuxièmement, un accord politique n'est pas destiné à résoudre les problèmes des deux individus. Je suis désolé. Et enfin, l'accord ne doit pas être taillé sur mesure parce qu'il satisfait les besoins de positionnement politique du rassemblement et non les besoins d'un pays à pouvoir accéder aux élections le plus vite possible. J'espère que l'ouverture des uns et des autres va permettre de pouvoir trouver finalement une réponse satisfaisante pour l'ensemble des Congolais au lieu de plutôt de s'occuper de quelques individus.
Voilà, Israël Moutala, vous êtes journaliste, analyste politique et économique. Comment vous analysez le fait que la majorité présidentielle dépose sa proposition pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre? Entre-temps, il y a certains opposants signataires de l'accord du 18 octobre qui refusent. Et comment vous analysez ça?
Mon analyse est simple. Nous sommes dans un jeu de pouvoir, où ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le partager et ceux qui n'en ont pas veulent justement l'exercer à des fins électorales. Quand on dispose de la machine publique, il est plus aisé de réunir les moyens pour battre sa campagne, il est plus aisé d'avoir une visibilité, un rayonnement au plan national de son action. Donc être au pouvoir dans ces conditions où les élections sont prévues dans une année ou dans une année et demie ou plus tard dans deux ans, et est un moyen important d'être en mesure de placer ses pions, d'organiser son parti, d'avoir le moyen de battre campagne. Et donc c'est une lutte pour accéder au pouvoir et être en meilleure position pour l'emporter électoralement. Et donc le tiraillement qu'il y a par exemple entre l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et le rassemblement notamment qui a signé l'accord du 31 décembre, c'est compréhensible, c'est des bonnes guerres, ce sont des guerres de positionnement. Ça veut dire que aujourd'hui les opposants signataires de l'accord de la cité de l'Union africaine veulent conserver justement le pouvoir qu'ils ont acquis à la faveur du premier accord. Le rassemblement également, à la faveur de son accord à lui, celui de la CENCO ou du Centre interdiocésain, aimerait aussi justement exercer le pouvoir conformément à cet accord-là. Et donc, c'est une lutte de pouvoir. Nous sommes dans la même configuration classique qui prévalait avant la signature de l'accord du 18 octobre. Les uns et les autres faisaient semblant de dire qu'il ne s'agissait nullement de partage de responsabilité, de partage de pouvoir, mais de l'intérêt général pour aller vite aux élections. Et à la fin de cet accord, il y a eu justement ce partage de pouvoir. Donc c'est classique. Mais cette division apparente de l'opposition, elle profite apparemment au pouvoir, à Kabila, parce que en fin de compte, c'est Kabila qui sera le maître du jeu. Le rassemblement, même si il arrivait à désigner, comme il le fera, à désigner un premier ministre, ce premier ministre là-bas doit être investi par l'Assemblée nationale. Et l'UDPS, le rassemblement, n'ont pas de majorité simple pour faire passer justement le premier ministre pour qu'il soit investi. Donc ils devront s'appuyer sur le président de la République, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui pourra instruire sa famille politique à voter la confiance au premier ministre qui sera désigné par le rassemblement. Et aujourd'hui, Kabila, malgré la guéguerre entre l'opposition signataire et non signataire de l'accord de la CENCO, sera bien obligé de mettre en œuvre l'accord de la CENCO. Et donc aujourd'hui, Boussa, Makila, Roubéroi et Sami Badibanga vont peut-être retarder le plus possible la mise en œuvre de l'accord de la CENCO, mais fatalement, le rapport de force n'est pas en leur faveur, ce qui fera, qui amènera Kabila, tôt ou tard, à mettre en application l'accord de la CENCO, parce que l'alternative de la non-mise en œuvre de l'accord de la CENCO est redoutée et redoutable pour Kabila, parce que si le rassemblement prend acte de la mauvaise foi ou prend acte du blocage et qu'il décide d'en appeler à la rue, alors nous allons encore repartir pour plusieurs mois d'incertitude. Et là, c'est là que repose la force du rassemblement, c'est là que repose la force de l'opposition qui a pris part au dialogue de la CENCO. C'est la rue qui est de leur côté et pas, malheureusement ou heureusement, du côté de l'opposition qui a signé l'accord du 18 octobre. Donc, alors, ça, c'est une faiblesse, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même poids politique, la rue, ils n'ont pas le même poids politique.
Alors Israël Moutala, est-ce que finalement la finalité pour la classe politique, toute tendance confondue, ne se résumerait-elle pas simplement à la chasse au pouvoir comme le décrit plusieurs observateurs?
Non, il ne faut pas que nous fassions de l'angélisme. Il ne faut pas qu'on fasse de l'évangélisme. Donc, tous les hommes politiques, tous les partis politiques ont pour objectif c'est conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Mais c'est comment le conquérir? Nous nous étions donné une règle du jeu, c'est le conquérir par les élections. Or, les élections n'ont pas été organisées. Le fait qu'elles n'ont pas été organisées, on se dit d'accord, on se met d'accord, on se partage le pouvoir. Et ça a un avantage, comme je l'ai dit tantôt, de partager le pouvoir. Donc c'est être assez subtil de dire que vous êtes là que pour organiser les élections, mais il y a aussi des inconvénients parce que à un moment, vous risquez de partager le bilan du président Kabila. Donc c'était un couteau à double tranchant. L'exercice du pouvoir est très compliqué. Hein, et donc vous allez trouver des réalités, il y aura une dynamique qui va prendre ou qui ne prendra pas, et donc vous serez tôt ou tard comptable. Les gens ne vont peut-être pas distinguer que vous n'êtes arrivé qu'à la fin. Mais ici, il est quand même avantageux d'avoir le pouvoir, parce que nous sommes un pays continent.
Merci.
Et la meilleure façon d'implanter un parti, c'est d'avoir les finances publiques avec soi.
Voilà. Et Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Pour vous, comment vous analysez cette situation? Israël Moutala parle d'un jeu normal de pouvoir et que les signataires, notamment les signataires, les non-signataires de l'accord du 31 décembre, Azarias Rouberoy et les autres, ne représenteraient pas grand-chose en termes de poids politique.
Oui, moyennant c'est que Israël vient de dire tout à l'heure, je crois que toutes les gesticulations au niveau de la classe politique congolaise démontrent assez suffisamment qu'il n'y a pas une culture politique démocratique qui doit accompagner la démocratie, qui doit accompagner le fonctionnement des institutions démocratiques. C'est comme ça que nous sommes en face des divergences qui dépassent les différences objectives. Les différences objectives, c'est une opposition normale, une opposition politique normale. Mais les différences que les uns et les autres sont en train de faire montre pour le moment, elles deviennent nocives. Donc, je l'ai toujours dit que nous sommes dans la fidélité à notre manière, à nous, Congolais, de créer nos propres crises. C'est à partir de cette émergence des fractures au sein de la classe politique. Et nous le voyons aujourd'hui, la majorité a été forcée du poids, une pression terrible sur la majorité pour signer les accords. Et je crains que l'ensemble de tous ceux qui chuchotent, parce qu'il n'y a plus lieu de chuchoter aujourd'hui, ne deviennent des béquilles de la majorité, c'est-à-dire des périphériques, tout simplement utilisés pour pouvoir bloquer le processus. Voyez-vous ? Alors ça, c'est la crainte que nous avons. Et là, je le dis en passant, je ne voudrais pas que le MLC, qui est un parti historique dans ce pays, puisse servir de cette béquille nocive de la majorité. C'est-à-dire une sorte de périphérique.
C'est-à-dire volontairement ou involontairement.
Volontairement ou involontairement. Voyez ? Donc, la majorité, nous le savons, c'est correct que là où eux ont échoué, ils avaient le pouvoir, le plein pouvoir, ils avaient l'argent. Voyez-vous ? Et ils avaient le temps, 5 ans, ils n'ont pas organisé les élections. Alors, là où les autres viendront pour organiser les élections en une année, ils doivent voir ça d'un mauvais œil. C'est tout à fait normal qu'ils gesticulent, n'est-ce pas, dans le sens contraire, n'est-ce pas, du courant d'eau. Mais que ça soit dans la transparence du jeu politique, que ça ne soit pas forcément pour arrêter un mouvement qui a commencé. Voyez-vous ? Donc, la bonne foi dont il est question en politique, c'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental. Donc, si c'est un jeu politique pour éclairer la transparence, pour essayer d'expliquer à la population, d'établir des responsabilités en cas d'échec ou de réussite, nous disons oui. Mais quand ce sont des jeux nocifs qui visent à tuer pratiquement le processus électoral ou à provoquer un nouveau glissement, n'est-ce pas, pour responsabiliser ceux qui gèrent la transition aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut dire que dans la lecture politique des événements en cours, il est bien clair que l'ensemble de la gestion du pays aujourd'hui est orientée vers l'organisation des élections. Et cette organisation des élections, qui fait l'objet de l'action gouvernementale pendant ce temps, est de la responsabilité d'abord du rassemblement, en tant que conseil, n'est-ce pas, national de suivi des accords, et ensuite du gouvernement qui émane, n'est-ce pas, du rassemblement. Donc le rassemblement doit prendre aussi avec tremblement, n'est-ce pas, ce processus électoral, et il doit liquider, en quelque sorte, toutes ces pratiques nocives, n'est-ce pas, qui ont empêché, n'est-ce pas, le respect des délais constitutionnels en matière d'organisation des élections, de manière non seulement à amener le processus jusqu'au bout, mais aussi à poser les jalons d'une nouvelle république qui peut renaître des cendres, tout simplement, de toutes ces ruines du paradis.
Alors, ce soir, nous avons diffusé ici sur Radio Okapi la réaction de Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandaka, qui a déclaré, je cite, « La conférence épiscopale nationale du Congo prend le peuple congolais à témoin à propos des tergiversations de certaines personnalités à signer l'accord inclusif qu'elle a négocié avec les parties prenantes pour décrisper la crise politique en RDC. Serait-ce un aveu d'échec ?»
Ce n'est pas un aveu d'échec. Je crois que, tout en marchant, quand vous êtes en train de guider un mouvement, il faut savoir le reprendre, il faut savoir l'orienter de manière à le mener jusqu'au bout. Et tout en marchant, il est en train de prendre, n'est-ce pas, donc il est en train de prendre la population à témoin. C'est-à-dire, il réclame l'accompagnement de la population, il réclame l'accompagnement de la population, c'est ici, ou d'ailleurs je dois dire que la société civile doit jouer son rôle naturel aujourd'hui. C'est non seulement le suivi, mais aussi l'accompagnement. Donc, il réclame en quelque sorte l'accompagnement de la population pour à la fois établir des responsabilités de l'échec sur des personnalités, sur des regroupements ou sur certains mécanismes, n'est-ce pas, souterrains des adversaires. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lui-même, la CENCO elle-même, c'est-à-dire que est en train de forcer la population à jouer un nouveau rôle. Non seulement à attendre les consultations électorales, mais la population a un autre rôle journalier, celui de surveiller, celui de contrainte de tous sur tous. C'est ce que la CENCO est en train de faire. C'est ça la signification profonde de ces déclarations. C'est de ne pas laisser la CENCO diriger ce mouvement, mais c'est d'apporter, d'avoir avec soi l'ensemble de la population pour responsabiliser les uns et les autres et surtout dégager les responsabilités des uns et des autres dans l'échec ou dans la réussite, n'est-ce pas, de ce processus.
Merci Joseph Kongolo. Professeur Alphonse Mahindo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, comment vous analysez cette situation? Vous avez suivi Israël Moutala et Joseph Kongolo.
Oui, merci beaucoup. En fait, je pourrais faire deux commentaires par rapport à la situation qui se passe là. Le premier commentaire, c'est que nous sommes là face à une stratégie qui a déjà été mise en œuvre avant et qui s'est poursuivie. C'est la continuité de la stratégie qui a toujours été menée jusqu'ici par une partie de la classe politique congolaise. En l'occurrence, il s'agit de la majorité. C'est de jouer la montre. C'est de jouer le pourrissement pour ralentir le plus possible le processus de manière à continuer à conserver le pouvoir pendant un certain temps. Donc, souvenez-vous comment on en est arrivé là, à ne pas organiser les élections dans les délais qui étaient prévus pour novembre et décembre 2016. Donc, il y a eu plusieurs tentatives pour échapper à ça. Et malheureusement, on a évidemment débordé. Et donc, on continue à jouer la montre aussi pour les mêmes raisons. Et ce n'est pas cet accord qui va changer cette stratégie-là. Ils sont toujours dans cette logique de jouer la montre qui permet de gagner. Entre-temps, ça fait baisser la tension au niveau du pays. Et également au niveau international, ça pourrait faire baisser la tension. Et on pourrait espérer aussi que des changements politiques majeurs qui se déroulent sur la scène internationale pourraient aussi impacter au niveau national. Je pense par exemple à l'élection de Donald Trump. Si Donald Trump est investi, donc on espère, si vous voulez, de la part de certains ténors de la majorité, que sa politique vis-à-vis du Congo pourrait connaître une inflexion qui pourrait être favorable à la majorité présidentielle. Donc il faut jouer la montre pour attendre jusqu'à ce niveau-là. Et si les données politiques internationales changent, alors on pourrait profiter pour resserrer, si vous voulez, les vis de ce qu'on a un peu décompressé. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est qu'on est là, quand face à ce qui arrive ici, on est face à... C'est vraiment un cas classique, c'est un classique de la négociation. Classique de la négociation, et j'ai comme l'impression, en suivant tout ce qui s'est fait, aussi bien de la part du négociateur, qui est la CINCO, que de parties prenantes, hein. J'ai comme l'impression qu'ils ont vraiment lu les... ils ont lu Saint-Germain ou la négociation de François Valdez, ce qui nous montre un peu comment il y avait eu cette négociation entre le roi Charles XI qui organisait en France, disons, 1550, 1570, donc qui organisait des négociations pour départager les Huguenots et les catholiques, donc les protestants, qui se disputaient les villes de France. Donc il a désigné un médiateur, un négociateur qui a essayé de faire les choses. Et donc quand je vois tout ça, par exemple, si je prends la CINCO, enfin un négociateur est en train de mettre la pression sur les gens et ne dévoile pas sa stratégie pour obtenir ni ses plans. C'est comme ça que vous allez entendre, par exemple, si jamais ça échoue, nous déclenchons le plan B. Et le plan B en question, on ne vous dit pas. C'est pour mettre les gens sous la pression de manière à ce que ils adhèrent au processus qui est mis en place. Puisque vous ne connaissez pas le plan B qui vous attend, qui pourrait être plus défavorable à ce que vous avez en ce moment. Et donc ça fait partie des stratégies. Et Francis Valdez dit que les négociateurs, il doit être un peu fourbe aussi, hein. Donc il doit essayer de jouer avec les émotions des gens, tout ça, et pour les amener à ce qu'ils veulent. Et de même, quand je regarde du côté des parties prenantes, les gens qui négocient là, on peut retrouver certains personnages de ces livres de Francis Valdez qui est basé sur la réalité des négociations. Donc on peut retrouver là-dedans, par exemple, un personnage déstabilisateur, les personnages du baron du blé. Le baron du blé, qui était donc, si vous voulez, un des négociateurs de protestants, lui, il était là un trouble fait. Contre toute règle de diplomatie, il était en train de provoquer, allant parfois jusqu'à l'injure et tout ça. Il disait des choses qui mettaient tout le monde mal à l'aise pour obtenir des gains pour son camp. C'est ce qu'il a réussi à obtenir. Les protestants étaient une force assez faible au départ, mais ils ont réussi à gagner plusieurs villes par rapport à leur poids politique. C'était pas ça.
Professeur. Parce
que lui, il était là pour jouer les troubles faits.
Oui. Professeur. Il y a Billy Paul Mbaya de Mbujimaï qui dit les réactions, ou plutôt la réaction des opposants signataires de l'accord du 18 octobre 2016 est incongrue du fait qu'ils ne représentent rien sur la scène politique congolaise. Et deux, ils oublient que c'est à la CENI de nous sortir un calendrier conformément à l'accord du 31 décembre dernier contenant toutes les dates possibles. Joseph Kongolo a attiré l'attention sur le fait que certaines composantes devraient éviter de jouer aux béquilles de la majorité pour bloquer le processus. Est-ce que vous êtes de ce point de vue?
Oui, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont justement dans la logique. Il faut considérer qu'on est presque, avec l'accord du 18 octobre, on est pratiquement à une majorité élargie. Voyez-vous, élargie aux opposants qui ont pris part à cette rencontre-là et qui ont signé cet accord, qui est devenu un document de travail pour trouver un compromis avec les conclusions du conclave. Alors, maintenant, ils défendent le point de vue de ce qu'ils avaient déjà acquis en ce moment-là, et pour la majorité qui a été suffisamment, si vous voulez, travaillée presque au corps par des pressions internationales, pression de la CINCO et tout ça, donc à accepter. Maintenant, pour la majorité présidentielle, il faut trouver des gens qui vont porter son discours. Et donc, on travaille d'autres gens qui vont parler au nom de pour dénoncer, et la majorité va s'appuyer sur ça. Et donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur qui le souligne.
Merci.
Et il me semble qu'on est en train de demander à un accord pour qu'un accord soit applicable, il faut éviter qu'un accord puisse avoir rentré trop dans les détails.
Merci.
Quand on rentre trop dans les détails, ce n'est plus un accord, ça devient des dispositions pratiques d'application d'un accord.
Merci professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure, Israël Moutala. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Maître Zozo Sakali, j'appelle à partir de Bukavu au sud Kivu. Au vu de toutes ces divergences et tractations, et surtout qu'il s'observe que la classe politique actuelle semble avoir oublié la nécessité de la tenue de l'élection présidentielle dans un bref délai en vue de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays, Je pense pour ma part que les mouvements citoyens devraient doubler des efforts pour des actions citoyennes susceptibles de faire pression pour l'organisation des élections et ainsi permettre au peuple congolais de sanctionner dans les jours qui viennent des politiciens égoïstes aux appétits gloutons et assoiffés du pouvoir.
Je posais la question tout à l'heure à Joseph Kongolo concernant la réaction de Mgr Fridolin Ambongo qui prenait à témoin le peuple congolais sur les tergiversations observées au sein de la classe politique. Joseph Kongolo a notamment dit que la SENCO a appelé la société civile à jouer pleinement son rôle. Israël Moutala, la société civile en a-t-elle encore et les moyens et le temps?
D'abord, je remarque que la SENCO commence à perdre patience. Et donc, elle s'est beaucoup dépensée dans ces négociations. Elle s'est beaucoup donnée pour que on évite au pays la crise. Je pense que si on a traversé le 19 décembre sans encombre, on le doit en grande partie aux négociations amorcées par la SENCO. Et elle est en droit, à un moment, de taper du poing sur la table et de dire « trop c'est trop ». Il faut mettre fin à ces jeux d'enfantillage. Mais le problème, c'est que la SENCO elle-même représente la société civile la plus significative de la RDC. Je me rappelle encore de la lettre pastorale du cardinal Moussengo qui avait été lu dans les paroisses. Et donc, la capacité justement à influencer la société, il n'y a aucune autre structure de la société civile qui a une telle capacité que l'Église catholique. Mais les autres structures de la société civile peuvent venir en appoint en termes de lobbying, en termes de faire pression, en termes de susciter les débats dans la société, en termes de marche pacifique, de sit-in, pour pousser justement à un accord.
L'auditeur fait allusion au mouvement citoyen.
J'ai un très grand respect pour le mouvement citoyen, donc ça veut dire pour moi quelqu'un qui exerce son droit à l'opinion, son droit de manifester librement dans le strict respect de la Constitution, je suis admiratif. Je vois, il y a une nouvelle jeunesse congolaise plus engagée politiquement. C'est ça le revers de la médaille, justement. Donc la crise politique aujourd'hui, née de la non-tenue de l'élection dans le délai constitutionnel, a donné lieu à une conscience politique plus importante qu'il y a quelques années. Donc vous avez maintenant chacun autour de nous donne son opinion sur ce que doit être le respect de la Constitution, sur ce que doit être le gouvernement. Donc nous sommes maintenant une société très très politisée où les gens maintenant veulent exercer leur souveraineté en termes de droit de vote. Et donc je suis parfaitement d'accord avec cet auditeur qui demande à ce que les mouvements citoyens notamment ou des veilles civiques exercent de plus en plus leurs activités, mais encore faudra-t-il que le pouvoir puisse leur laisser le temps de s'émouvoir, ne pas mobiliser toute une armada,
les brimer,
ouais, tout à fait, ne pas mobiliser toute une armada pour de jeunes gens en casquette ou en polo qui demandent le départ de Kabila, qui demandent Guy Brandis de carton jour ou voilà. C'est un débat démocratique d'idées. Je vois la majorité qui s'organise aussi en créant des mouvements d'éveil civique ou en instrumentalisant.
Alors, bref. Voilà. Alors Israël Moutala, la majorité présidentielle a déposé sa proposition hier lundi dans la soirée. Dans ses deux commentaires, le professeur Maïndo est revenu sur notamment la stratégie de pourrissement employée par la majorité. Est-ce qu'on peut lui accorder la bonne foi?
Bon, moi, je dis que en politique, en principe, je crois pas à la bonne foi des politiques. Je crois pas à la bonne foi. Non, ça veut dire que pourquoi Kabila appliquera-t-il l'accord de la SENCO? Faut pas compter sur sa bonne foi.
Il n'a pas intérêt.
Faut pas compter sur sa bonne foi. C'est-à-dire, la question, pourquoi il n'appliquerait pas cet accord? Il n'appliquerait pas cet accord parce qu'il redoute la rue, parce qu'il redoute les sanctions internationales, parce qu'il redoute. Non, mais jamais compter sur la bonne foi d'un politique. Parce que si c'était la bonne foi, on aurait eu les élections dans les délais constitutionnels. Joseph Kongolo a parlé tout à l'heure que la majorité avait 5 ans pour organiser les élections. On peut vous sortir toutes les théories de la crise, les élections sont coûteuses, ceci, cela. Mais ça ne tient pas là aussi. Avec la volonté politique, on aurait eu les élections dans le délai constitutionnel. On ne les a pas eues dans le délai constitutionnel parce qu'il y avait une volonté de conserver le pouvoir. Les gens n'étaient pas prêts aux élections. Donc voilà. Donc moi, la théorie de la bonne foi, je n'y crois pas. Donc ça sera, c'est un rapport de force. Et le rapport de force a contré la majorité aujourd'hui, justement, à négocier avec le rassemblement, avec cet accord. Donc, c'est ce rapport de force, c'est la rue, le fait qu'on redoute la rue, qui fera que cet accord sera appliqué ou pas.
Merci. Joseph Kongolo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Serge Mousséanio de Goma au Nord Kivu. Attendit qu'elle peut ne pas être digérée par le Front citoyen et qu'on sort. Cette proposition de l'arrangement particulier pour soi-disant la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre ne constitue-t-elle pas un moyen pour la majorité présidentielle de pouvoir mettre des embûches dans cette mise en œuvre dans l'objectif de perdre le temps ou l'argent pour afin recourir dans les jours prochains au référendum qu'elle préconisait?
Joseph Kongolo.
Bien, merci beaucoup Serge pour cette question. Mais je crois que le contexte actuel a démontré que l'ensemble des stratégies de la majorité sont essoufflées aujourd'hui. Le référendum, le changement de la Constitution, je crois que c'était des stratégies majeures de la majorité. Nous nous rappelons la sortie pompeuse, n'est-ce pas, de l'ouvrage de l'ex-ministre de l'Intérieur. Tout ça, c'était le début. On voulait préparer la population. Je suis très sûr aujourd'hui que ces stratégies sont essoufflées aujourd'hui. Le contexte a changé. Pourquoi ? Parce que dans leur manière d'exécuter cette stratégie, ils ont créé des crises successives à l'intérieur qui ont amener, n'est-ce pas, l'intervention de la communauté internationale. Donc, ils se sont fragilisés et la communauté internationale est venue et s'est invitée dans la danse pour éviter que la RDC les déséquilibre le monde. Ils se sont invités dans la danse et voilà, cette stratégie est complètement essoufflée aujourd'hui. Donc, revenir encore sur cette stratégie, c'est vraiment être à court de stratégie véritable. Je crois qu'aujourd'hui, la majorité a très peu de choses à dire à la population. Elle a fait 10 ans au pouvoir. Elle a eu un projet de société que nous avons eu à juger sur le terrain. Il n'y en a pas de meilleur que ce que nous voyons les œuvres dont il parle. Alors, je crois franchement qu'aujourd'hui, la majorité doit renaître, doit refaire sa stratégie. Et la meilleure façon de refaire la stratégie, c'est de mettre l'ensemble, n'est-ce pas, des conseillers, l'ensemble des stratégistes de la majorité en jachère, parce qu'en fait, ils n'ont plus rien d'autre à exposer à la population aujourd'hui.
Alors, Joseph Kongolo, dans sa proposition, la majorité propose, permettez-moi la tautologie, un gouvernement d'une soixantaine de ministres pour question d'inclusivité. N'aurait-elle pas raison?
Je dis sincèrement que nous ne devons pas prêter beaucoup l'oreille à cette majorité. Nous n'avons plus le droit de prêter l'oreille à cette majorité. Elle a perdu totalement
la population. Est-ce que vous ne tombez pas dans l'extrémisme?
Ce n'est pas l'extrémisme.
C'est un partenaire politique important.
Ils ont joué avec le feu, ils nous ont emmenés dans une situation très indélicate. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre ensemble l'ensemble des propositions qui ont été faites, n'est-ce pas? Et dégager un consensus. Revenir sur 67 ministres, comme ils l'ont proposé aujourd'hui, je crois que ce n'est pas savoir. Je crois que c'est eux qui devaient nous dire que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir supporter le personnel politique. Parce qu'il faut organiser les élections. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre les idées ensemble et dégager un consensus entre les différents protagonistes. Si ils se mettent d'accord sur 60 membres, tant mieux. Notre problème, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des étincelles qui risquent de mettre le feu, n'est-ce pas, à la case.
Avez-vous l'impression, comme Israël Moutala, que la SENCO commence à perdre patience du moment qu'elle continue à agiter l'épouvantail de son plan B?
Oui, je suis tellement d'accord. Nous avions dit, c'est ce que notre ami Edem Kodjo n'avait pas. Il n'avait pas cette police du débat. Edem Kodjo ne connaît pas les Congolais. Les Congolais, ce sont des discoureurs. Et je crois que c'est la technique, la stratégie qui est adaptée à la classe politique congolaise. Il faut remuer le marteau à tout moment et savoir aussi donner la carotte à un certain moment. On ne doit pas discuter continuellement. Et il n'y a pas à discuter continuellement. Se mettre d'accord sur le format du gouvernement, il faut prendre une semaine. Se mettre d'accord sur les arrangements particuliers, ça va prendre combien de temps? Non, c'est pas correct. Nous ne devons pas rester toujours enfermés dans des salles climatisées, en train de discourir pendant que le temps est en train de passer. Mais je voudrais ici ajouter un élément essentiel, parce que je l'ai suivi dans les questions des auditeurs. Le retard dans l'implantation du gouvernement de transition n'a pas d'incidence directe, nocive, sur le processus électoral. Parce que les gens s'impatientent. Plus on ajoute le temps, plus le gouvernement ne sort pas, plus on va ajouter au mois de décembre le jour qu'on aura perdu. J'ai dit, le processus est suffisamment conduit, approprié par la CENI d'abord, et ensuite, il y a des organisations informelles, nationales et internationales, qui pilotent ce mouvement. Et je vous dis d'ailleurs que la MONUSCO est en tête, n'est-ce pas, dans toute cette procédure, dans le déploiement du matériel, n'est-ce pas, sur l'ensemble du pays. Donc je vous dis que le processus ne souffre pas des tergiversations politiques aujourd'hui dans l'implantation du gouvernement. Et le processus court normalement, sans vraiment beaucoup d'égratignures de la part de toute cette tergiversation politique.
Professeur Alphonse Mahindo, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kindu Maniema.
Qui est originaire depuis Kindu, l'acte posé par la majorité est encouragé, mais la CENCO devrait se référer à l'accord de San City à ce qui concerne le partage des postes pour éviter l'indifférence des opérateurs politiques face à l'accord du 31 décembre 2016. Et cela le plus tôt possible car nous sentons les implications de la politique ici chez nous à Kindu par la montée des prix des produits vitaux. Mais aussi rapprocher les grands acteurs politiques ayant eu une forte légitimité autour d'une même table serait plus encourageant. Tshisekedi, Mbemba, Azarias, Moïse, Kyungu et Kabila. Car les pays nous appartiennent tous et nous tous nous devons penser à son développement.
Professeur Mahindo.
Oui, alors il y a une partie des éléments de son intervention qui est acceptable pour moi, qui à laquelle j'adhère, mais il y a une autre partie à laquelle je m'associe pas du tout. En particulier la question pour dire salut la réaction de la majorité présidentielle. Quand on fait une proposition de 67 membres d'un gouvernement dans un contexte de crise. Et je rappelle ici que le premier ministre Matata, qui est sorti il y a peu, a indiqué que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les finances publiques, inflation qui augmente et la monnaie qui est dépréciée et tout ça, c'est lié au fait qu'il avait un gouvernement qui était pléthorique avec plein de chefs politiques, il ne pouvait plus contrôler les finances publiques. Donc on ne peut pas reproduire ça en disant et saluer ça. Surtout que nous avons maintenant un budget qui est plus réduit que celui qu'on avait avant. Si on n'a pas réussi à organiser les élections avec un budget de 8 milliards et 7 milliards, avec un taux de croissance qui était de 7-9%, comment peut-on organiser les élections avec un taux de croissance qui est en dessous de 5 et aussi avec un budget de 4 milliards 5? Donc c'est impossible. Donc on ne peut pas saluer cette proposition-là. Il faut un gouvernement réduit. Voyez-vous, prendre tout le monde, mais avec effectif limité, pour faire un combat qui est le combat des élections dans un bref délai. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième partie de sa préoccupation, je suis d'accord avec lui, on doit pouvoir privilégier l'intérêt général. On doit pouvoir privilégier l'intérêt général en faisant quoi? En faisant l'inclusion de tout le monde. C'est ce que la CENCO a proposé, donc qu'on puisse avoir toutes les parties prenantes dans le gouvernement et que ce soit une représentation qui soit équitable. Je ne dis pas paritaire, mais équitable, qui permettent de prendre en compte le poids politique des uns et des autres. Et l'exemple de San City, c'est un bel exemple qu'il a évoqué, puisqu'on a eu avec San City un président de la République qui est resté en place, en l'occurrence Joseph Kabila, avec quatre vice-présidents, un président qui représentait le gouvernement central, donc Yerodia, un président qui représentait les différents groupes armés et l'opposition politique, qui était donc ici à Tchoudraï Dingoma, ainsi que Roubaix-Roi et Bemba qui représentaient les deux grands partis, les deux grands groupes rebelles. Donc c'est ce type d'accord qu'on peut prendre. On peut disposer qu'on a un par exemple au niveau des comités de suivi ou au niveau des vice premiers ministres qu'on puisse avoir des représentants de ces différentes forces qui sont là. Voyez-vous? Et ça, ce serait dans les applications concrètes de cette mesure-là. Ça permettrait d'avoir un apaisement, mais sans avoir un grand monde dans le gouvernement. Oui.
Professeur, il y a... Professeur?
Oui,
il y a Augustin Tendilongue de Bukavu qui dit, à mon avis, je pense que toutes ces tractations prouvent à suffisance que la MP reste le meneur de jeu de l'accord du 31 décembre, car sa proposition de 60 ministres ainsi que la position actuelle de certaines personnalités signataires de l'accord du 18 octobre 2016 figurent parmi ses stratagèmes de bloquer la mise en application de cet accord, d'où le plan B de la SENCO est plus qu'important, car la MP semble bien distraire les évêques et le peuple congolais. Professeur, pour vous, vous n'êtes pas dans les secrets des dieux ni des saints. En quoi pourrait consister ce plan B?
Ben, vraiment, pour c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé mon introduction en disant qu'on est là face à des fins stratèges en termes de négociations qui ne vous dévoilent pas ce que c'est leur plan B. Et peut-être que le plan B en question, ça consiste en rien du tout. Ça peut être aussi tout simplement un moyen pour faire monter la pression, pour faire les choses. Mais je pense que le plan B, ça pourrait être justement de dire, voilà, on lâche tout. Et si nous lâchons tout, puisque la communauté internationale accorde un grand crédit, accorde son soutien total à cette médiation de la SENCO, si la SENCO dit, voilà, nous nous désengageons et nous reprenons notre flambeau de force sociale, de la société civile. Et nous savons ce que les évêques sont capables de faire, écrire des lettres pastorales, appeler les chrétiens à la mobilisation, tout ça. Et donc, ils peuvent se servir de ça et prendre la communauté internationale à témoin. Or, on sait qu'il y a la pression de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des Nations unies, qui se multiplient et qui pourraient envisager des sanctions beaucoup plus graves, à part celles qui ont été envisagées déjà jusqu'ici, contre les autorités, contre ceux qui sont dans les blocages. Et souvenons-nous bien, il y a eu dans d'autres pays, et même dans ces pays-ci, des mesures tout à fait exceptionnelles, y compris de neutralisation de certaines personnalités qui étaient perçues dans les années 60 comme étant des obstacles à tel ou tel processus politique. Et ce n'est pas impossible que les puissances qui comptent puissent recourir à ce type de mesures également pour ce qui concerne notre pays actuellement.
Alors, professeur, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de ce processus de négociation?
Alors, je pense que ces négociations vont aboutir. À mon avis, ça fait partie des jeux classiques de négociation, mais tout simplement, on va perdre beaucoup de temps dans les discussions. C'est ce que certains veulent, mais ils finiront par signer tous et ils finiront par mettre en œuvre, même partiellement, parce qu'il y a une vigilance forte. Merci. Il y a des pressions réelles qui pèsent sur eux, donc ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça, sinon ce sera des gens qui seront défenestrés du pouvoir.
Merci professeur Israël Moutala. Le professeur également, l'auditeur de Kindu, on fait allusion à Sun City. On a un bel exemple des négociations où il est sorti quelque chose de bon. Pourquoi on n'y s'y réfère pas en ce moment?
Bon, moi je crois que c'est quand même compliqué faire un gouvernement avec autant de composantes, autant d'ambition. Ouais, d'ambition. Donc je crois que pour le PPRD, le gouvernement Sami Badibanga, je crois que pour le PPRD, le secrétaire général Henri Mova avait à peu près de 180 candidatures. Pour le PPRD uniquement. Nous sommes dans la majorité présidentielle et pour le PPRD, il y avait à peu près 180 candidatures pour être nommé au gouvernement. Et vous avez vu, malgré ça, l'Ituri, qui est un bastion important, qui est une province importante en termes de députés, en termes de population, n'est pas représentée au niveau de ministres nationaux, peut-être au niveau de vice-ministres. Et donc, c'est un dosage provincial en termes de force politique.
Très compliqué.
C'est très compliqué. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus.
Et comment vous entrevoyez la suite de ces négociations? Le professeur Maïndo pense que ces négociations vont aboutir, mais on perdra quand même beaucoup de temps.
Si, écoutez, l'épée de Damoclès n'a pas quitté le ciel congolais. Nous sommes toujours dans une crise politique profonde. Et donc, il faut la résoudre. Et donc, il est dans l'intérêt du président de la République d'appliquer cet accord. Donc, à l'heure actuelle, le chef de l'État ne serait plus au pouvoir, mais il est encore au pouvoir, donc il est encore là pour une année ou deux ans. Parce que les élections ne se tiendront pas cette année. Toutes les dates qui ont été mises dans les accords, que ce soit celui d'octobre ou celui de décembre, c'était des dates politiques pour la consommation de l'opinion. Et donc, nous sommes là, on doit vraiment désamorcer la crise. Et merci. Le président de la République absolument a intérêt à appliquer cet accord.
Joseph Kongolo, comment vous entrevoyez la suite de ces négociations?
Nous allons atterrir en douceur, bien sûr.
Malgré contre tout.
Le contre tour, malgré toutes les embûches que les uns et les autres vont devoir mettre sur le chemin. Mais je sais, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'épée, le plan B, n'est-ce pas, de la CENCO est un marteau lourd qui risque d'écraser les autres. Et c'est particulièrement ceux qui ont été au pouvoir et qui continuent à s'y tenir. Donc, je crois que le plan B, c'est une arme de taille, n'est-ce pas, pour pouvoir amener...
De dissuasion massive.
Oui, de dissuasion massive, exactement. Et je crois que nos amis de l'opposition de l'accord du 18 octobre, qu'ils ne perdent pas le temps inutilement parce qu'on ne les suivra pas.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Elle est terminée. Restez branchés sur la radio de la paix. Recevez nos voeux de paix et de santé pour 2017. Au revoir.